Ouais, je me demandais en fait pourquoi, à votre avis, enfin je sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez enfant, mais moi j'avais l'impression que dès que je devais attendre, dès qu'on me mettait dans une posture d'attente, c'était infini. Mais vraiment, quand je repense au moment d'attente quand j'étais enfant, genre dans un magasin, quand ma mère faisait les courses, j'ai l'impression que ça durait 3 jours. Enfin vraiment, moment ressenti, 3 jours. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça a vraiment changé et que c'est presque l'inverse en fait, que le temps défile entre mes doigts et que j'ai plus du tout ces moments-là. Et des fois je les regrette un peu, enfin. Je sais pas comment vous positionnez par rapport à ça, mais ouais.
Ouais, bah, je pense que par rapport à l'enfance, enfin, si tu, on se remet dans le truc de ouais, t'es au supermarché avec ta mère et elle croise une pote à elle et juste tu dois attendre. En fait, t'as tellement peu d'autonomie que bah, juste t'es obligé d'attendre ta mère. Alors que, enfin, maintenant, si la même situation se produit, je suis au supermarché avec ma mère, bah, je vais me balader, je vais,
Ah
je sais
ouais.
pas, sortir. Donc, je pense que l'attente, elle est plus, enfin, elle est subie quand t'as aucune autonomie et que juste t'es, enfin. T'es obligé quoi.
Ah, c'est vrai. Même genre le truc de t'es dans la voiture et je sais pas, on t'emmène à un parc d'attractions et t'as l'impression que chaque minute dure 5 heures. Parce que pareil, il y a un truc de t'es contraint par la voiture, l'espace de la voiture où tu dois
Ouais.
juste rester assis et tu dis quand est-ce qu'on arrive et on te dit bah, toujours dans 10 minutes. T'es là alors quoi? 10 minutes
C'est long.
c'est 100 ans.
C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique.
Je pense en effet que le rôle d'un philosophe, c'est de déranger. Un philosophe qui arrangerait, qui réarrangerait les choses, ne jouerait pas, je crois, le rôle qu'on doit jouer actuellement, le philosophe et la philosophie. Mais on ne dérange jamais assez, enfin, en tout cas, j'ai conscience d'avoir dérangé bien peu et bien moins que je n'aurais voulu.
À vrai dire, au jardin, je n'aime bien travailler, car je suis littéralement absorbé par les formes, les couleurs, la lumière et. Je préfère l'ombre du bureau pour écrire.
Le vrai amour a toujours la possibilité de renoncer à tout ce qu'il faut, à tout ce qui est à moi, tu vois, pour quelqu'un d'autre. Je suis responsable de la misère d'autrui, même souvent de la bêtise d'autrui.
Bienvenue sur Radio Piole.
Vous écoutez Radio Pium et aujourd'hui on va parler de l'attente, ou plutôt du fait d'attendre, avec Anna.
Bonjour.
Emma.
Bonjour.
Qui nous rejoint sur le podcast. Et moi-même, Marianne. Anna, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'étymologie d'attendre?
Oui, le mot attendre, enfin le verbe attendre, il vient du latin attendere, qui veut dire tendre vers, être attentif à. Donc on voit bien qu'il y a une tension qui se trouve même dans le verbe tendre, vers le, enfin, dans le temps. Il y a un certain rapport au temps dans l'attente. Et le mot attendre, il vient aussi, enfin, on peut aussi le rapprocher du mot italien aspettare, qui veut dire spectacle, qui se rapproche du mot spectacle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la racine latine, tendre vers et dans le mot latin, le fait d'être un peu spectateur, il y a un peu une tension. Parce que le spectateur, c'est quelque chose, enfin, c'est une position plus passive, alors que quand on tend vers quelque chose, qu'on est attentif, enfin, un spectateur peut être attentif, mais vous voyez, il y a quelque chose d'un peu différent, enfin, comme s'il y avait d'un côté quelque chose de plus actif et de l'autre quelque chose de plus passif.
Ouais, complètement. Donc en fait, on voit un peu déjà, je trouve, la tension conceptuelle propre au fait d'attendre, dans le sens où. Déjà, moi, quand je regarde la définition, la première définition que le dictionnaire me donne, c'est vraiment. Attendre, se tenir, rester en un lieu jusqu'à l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose. Donc il y a vraiment une passivité totale quoi, dans l'attente. Ce truc de se laisser. Rester presque s'auto-objectifier face à l'arrivée d'un événement potentiel.
Et l'attente, j'ai l'impression, elle est souvent caractérisée par l'ennui.
Ouais.
On parlait de l'enfance, mais c'est vrai que. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs où juste je m'ennuie, en fait. J'attends quelque chose, ou même pas forcément un truc précis. Mais juste, tu dois passer ton après-midi parce que t'es chez tes grands-parents et qu'il n'y a rien à faire. Et juste, tu t'ennuies et t'attends, d'aller manger, d'aller te coucher.
Ouais. Et justement, parfois, dans l'ennui, t'essaies de le combler. Et à partir du moment où tu le combles, du coup, il y a une forme d'agentivité. Tu vas passer à l'action, tu vas jouer, tu vas faire un truc pour combler cet ennui. Et donc là, en fait, l'attente, elle disparaît dans un sens.
Et elle devient un moteur.
Ou elle devient un moteur, en fait, de quelque chose d'autre. Du coup, est-ce qu'elle est encore là à partir du moment où on passe à l'action? C'est ça qui est intéressant aussi. Se demander, du coup, est-ce que on est nécessairement spectateur dans l'attente, ou est-ce qu'en effet, attendre, ça peut nous conduire à tendre vers quelque chose d'autre, et donc là, par exemple, tendre vers le jeu, tendre vers,
vers l'action,
vers la créativité. Donc, elle est un peu là, en fait, l'attention. Ouais. Dans le terme.
Ouais, 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 carrément. Mais parce que dans l'attente, il y a cette idée que ce serait un état finalement transitoire, qui est orienté vers l'avenir. Quand tu dis que justement cette attente, elle peut nous conduire à finalement une action et du coup être une forme de moteur, c'est, moi je la vois vraiment comme une orientation vers l'ouverture. C'est-à-dire que l'attente, ce serait cette phase où on est au seuil, en fait, de l'ouverture. L'ouverture qui serait la projection, le fait justement d'attendre un objet, d'avoir un projet pour soi-même, s'imaginer en fait dans le futur, qui du coup s'ouvre à l'action. Et donc ce serait ce seuil d'ouverture face à toutes les possibilités qui peuvent se présenter à nous. Donc même s'il y a cette attitude d'indétermination, quoi.
Et en fait, ce qui peut être assez intéressant aussi, c'est d'essayer d'établir une distinction entre la patience et l'attente. Parce que, encore une fois, pour revenir à l'enfant qui attend, souvent, quand on est impatient, nos parents, enfin, justement, quand on est dans l'attente, on est impatient, et donc nos parents vont nous pousser, nous dire à, allez, sois un peu patient.
Mais j'ai l'impression que l'attente, c'est aussi l'épreuve de la vie. Enfin,
ouais.
C'est une forme de discipline. On va nous dire, non mais c'est bien de s'ennuyer,
ouais.
Y a vraiment quelque chose qui est propre à l'enfance aussi, d'attendre.
Complètement.
Même t'attends, enfin, sur le temps d'une journée, mais t'attends aussi d'être adulte, je sais pas, d'avoir 18 ans, de pouvoir faire ceci, cela.
C'est ça, et ça rejoint quand même le truc du projet, où en fait on te dit, attends, ouais. Pour l'instant, il y a un moment où ça va arriver, mais là tu dois en fait attendre, et tu dois être dans une forme de patience qui du coup est un peu imposée. Un peu subi, donc c'est pour ça que c'est intéressant. On peut se pencher aussi sur l'étymologie du mot patience,
ouais.
Qui du coup
le mot patience, il vient du grec pathos, qui veut dire subir, et
ouais. Mais du coup on peut se demander, est-ce que être dans l'attente nécessairement ça nous pousse en fait à être dans une forme de patience, et est-ce que du coup si on doit nécessairement être patient dans l'attente, est-ce que du coup on doit nécessairement subir l'attente, même si y a cette notion de projet et cette notion de dans le futur quelque chose va se réaliser ou quelque chose va arriver à nous,
de prévision,
voilà, c'est ça. Est-ce que malgré la projection, en fait, on est nécessairement contraint à la passivité et au fait de subir, ou est-ce que en fait on peut dépasser ce truc là de patience imposée et sans nécessairement être impatient, trouver des choses pour occuper, combler cette attente
et passionner l'attente, comme disait, ouais, Yankelevitch.
J'adore. En fait, on pourra se demander qu'est-ce qu'attendre et comment cette attente, elle va se matérialiser, comment elle va se déployer, en fait.
Notamment dans le temps et dans l'épreuve du temps.
Dans le temps, dans l'épreuve du temps et dans la possible passivité qu'elle nous impose, en fait.
Ouais. Et si, du coup, ça nous impose une passivité, est-ce qu'on peut pas transformer ça, et est-ce qu'on peut pas faire de l'attente... Enfin, on peut se demander s'il pourrait y avoir un intérêt dans l'attente. Qu'est-ce qui se matérialise de notre capacité à agir dans l'attente, et
est-ce qu'on peut avoir une prise sur l'attente, quoi, sur le fait d'attendre, et ouais, et au final
peut-être que l'attente peut être un événement en soi, et qu'elle est plus, comme tu disais, Emma, quelque chose de transitoire qui emmène vers quelque chose, mais peut-être qu'elle peut être vécue pour ce qu'elle est, ce qu'elle nous apporte.
Et peut-être qu'on peut aussi saisir la valeur de l'attente et
être dans le temps présent.
Et être dans le temps présent. Et c'est tous ces questionnements auxquels on essaiera de répondre dans ce podcast.
L'attente, elle suppose une prévision, c'est-à-dire quelque chose qui va arriver ou qui peut arriver. Mmh. Et donc, vis-à-vis de l'objet qui est prévisé, on va dire, il faut un intérêt suffisant. Et c'est-à-dire que sans intérêt, il n'y a pas de prévision, donc il n'y a pas d'attente. Et donc l'attente suppose une projection en conformité avec ce qu'on craint ou ce qu'on désire. Donc j'ai l'impression, un peu deux attitudes face à l'attente, soit une attente vis-à-vis d'un objet qu'on désire, soit une attente qui est empreinte d'angoisse vis-à-vis d'un objet qu'on craint. C'est, ça permet de rejoindre un peu ce qu'on disait sur la coloration affective de la tante. Mais si on essaie de définir un peu la tante pure, c'est-à-dire indépendamment de tous ces accidents qui lui donnent une coloration, ces accidents qui sont un état variable, quoi, il faut chercher une forme de constante. Et donc la constante, ce serait toujours cette situation où quelque chose peut se produire, quoi. Et l'attente, on pourrait dire que c'est un état qui s'éveille dans l'intervalle entre la prévision, la volition et l'événement, l'action, lorsque justement cet intervalle est perçu comme un vide, un obstacle ou un pont.
Mais du coup, j'ai l'impression que l'attente, c'est difficile de la penser comme quelque chose d'intrinsèque, et c'est forcément une rencontre de l'altérité. Enfin, tu parlais de quelque chose, d'un objet qu'on craint ou qu'on désire aussi, mais de quelque chose qui est un peu presque anxieux. Et c'est comme si, tu le disais, il y a de l'imprévisibilité. Et ouais, j'ai l'impression que vraiment dans l'attente, il y a le fait d'être un peu dépourvu et d'avoir de l'appréhension, de ne pas savoir à quoi on va, à quoi s'attendre justement.
C'est un moment de flottement en fait. Enfin, comme tu disais, l'intervalle, il y a un vrai truc de... on ne sait pas trop quoi faire de nous-mêmes dans l'attente. Enfin, en théorie en tout cas. Justement parce que ça advient avant... l'événement.
Ouais.
Et donc, comment on pense le temps avant l'événement ? Est-ce que le temps avant l'événement existe ? Puisque, enfin, si on se fie à la pensée existentialiste de Sartre, par exemple, qui pense que l'homme existe comme un projet, en fait, on n'existe qu'à travers nos choix et à travers le fait d'agir. Du coup, est-ce qu'on agit vraiment dans l'attente ou est-ce que juste on est dans une sorte de temps alpha, genre, enfin, même ouais. avant le ouais. début de l'existence, quoi, et du déploiement de l'existence.
Il y a une philosophe qui s'appelle Sandrine Alexandre qui a écrit un livre qui s'appelle L'attente ou l'art de perdre patience, et qui a une formation que je trouve jolie, enfin, même si elle est. Enfin, elle parle de l'épaisseur visqueuse du temps qui apparaît dans l'attente. Et je trouve ouais. qu'il y a ce truc intéressant de. Pardon. Ça va aussi avec ce que dit Bergson sur le temps subjectif, hein, c'est quelque chose qui est visqueux, qui. Passe pas trop, enfin qu'on éprouve presque de façon corporelle et matérielle, mais qui est assez. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais. Bah, ça fait justement, comme tu dis, le lien avec Bergson en fait, et les données immédiates, enfin, dans les données immédiates de la conscience, du coup, lui, il fait une vraie distinction entre le temps scientifique, qui est divisible par des secondes, des minutes, etc.
Le temps de l'horloge.
Le temps de l'horloge, exactement. Et le temps éprouvé, le temps vécu. Particulièrement, et qu'il appelle la durée, en fait, et qui est quelque chose de purement subjectif, qui est fondé sur le ressenti. Donc vraiment, c'est un truc qui est variable, et selon lui, en fonction de chaque intériorité, en fait, on va l'éprouver de manière différente. Et je pense que l'expérience de l'attente, c'est l'expérience même de la durée, en fait. C'est l'expérience d'éprouver l'épaisseur du temps et l'impression, en fait, que le temps se rallonge, parce que, en fait, on a une sorte de... Fin, ça dépend du type d'attente aussi, parce que je pense qu'il y a plein de types d'attentes différentes. Mais il y a cette impression souvent dans l'attente que en fait, tout est possible puisque on est dans l'inaction. Donc il y a toutes les potentialités d'existence qui s'offrent à nous. Et parfois, ça peut nous mettre dans une position d'immobilité parce qu'on peut être paralysé aussi par cette attente en fait, et la possibilité de l'événement. Ou alors, ça peut aussi être une forme de passivité, je ne sais pas, volontaire, la volonté vraiment d'attendre et... Et donc là, ça rejoint la patience, on se dit, allez...
La volonté de prendre son temps aussi.
C'est ça.
Qui peut être une posture très philosophique de refuser aussi de refuser l'épreuve du temps, justement, et d'un peu s'affranchir de ça, et
De rallonger les secondes. Par exemple, ce truc de... Des fois, ça peut être la volonté aussi de justement essayer d'excéder le temps des horloges et de l'oublier un peu aussi... Mais ce qui est intéressant, en fait, Bergson, il donne un exemple. Il donne l'exemple du verre d'eau et du sucre. Mmh. Et il explique que, en fait, la dissolution du sucre dans l'eau, elle est quantifiable par la science et on peut la chronométrer, en fait. Mais que l'être humain qui va observer cette dissolution-là, il va le vivre complètement différemment. Et en fonction de son expérience personnelle, de sa perception du moment et du degré d'impatience dans lequel il est ou non, il va soit l'expérimenter comme quelque chose de très long, de très lourd, en fait, et presque parfois d'insupportable, ou plutôt comme quelque chose de rapide, quoi. Parce qu'en vrai, admettons l'exemple du verre d'eau et du sucre, si on est dans une discussion avec quelqu'un au café et qu'on met notre sucre dans le café, on va même pas se rendre compte qu'il se dissout. Ça va arriver en 5 secondes. Mais peut-être que si on est tout seul et qu'on est pressé de boire notre café, et qu'on veut le boire vite parce qu'on doit aller quelque part après... bah, l'attente, elle nous paraît insoutenable, en fait.
Et ça me fait penser aussi à l'attente amoureuse. C'est, j'ai l'impression que l'attente, en fait, elle change à partir du moment où t'as des intérêts, entre guillemets, et des désirs qui vont la croiser. Mm. Typiquement, bah, on parlait de ça tout à l'heure, quand t'attends que quelqu'un que t'aimes bien réponde à ton message, t'as l'impression que ça prend une éternité parce que tu projettes quelque chose et y a des désirs qui interviennent. Et donc l'attente, à ce moment-là, elle prend une dimension supplémentaire, mais elle peut aussi être... à mon sens, l'attente, elle a vraiment un rôle très important dans la relation amoureuse et surtout la formation de la relation amoureuse. C'est Roland Barthes qui dit ça dans un fragment des discours amoureux. Il va dire que l'identité fatale de l'amoureux n'est rien d'autre que je suis celui qui attend. Et il y a vraiment quelque chose de... un rapport très fort entre amour et attente.
Mais du coup, lui, ça veut dire qu'il pense l'amour, du coup, un peu comme une condition passive, nécessairement. À moins qu'il pense l'attente en dehors de la passivité. Mais je pense que là, cette citation, elle fait toujours écho, en fait, à l'idée passive de l'attente. L'idée qu'on attend, en fait, que l'être aimé vienne à nous, que l'être aimé nous accorde de l'attention, nous reconnaisse dans ce qu'on est, etc. C'est une vision assez négative de l'amour.
Ouais, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de positif aussi, parce que tu formalises tes désirs, tu vas, bon, c'est peut-être négatif parfois, mais tu vas imaginer la personne. Ça peut,
c'est de la projection.
Ouais. C'est ça, c'est de la projection, mais il y a aussi quelque chose de, d'un peu jouissif. Je trouve que ça fait partie des délices de l'amour, tu vois, d'attendre.
Mais d'ailleurs, ouais. Rousseau, il disait dans La Nouvelle Héloïse, on jouit moins de ce qu'on obtient que de ce qu'on espère. Et je trouve ça très vrai, justement, dans l'attente amoureuse. Quoi.
Le meilleur moment, en fait, c'est celui qui précède la satisfaction, où tu peux tout...
C'est souvent ce qu'on dit, que les meilleurs moments, c'est les moments d'incertitude, de flottement, etc. Mais moi, je pense que ça peut aussi être les pires moments, honnêtement.
Oui,
parce que
on est d'accord.
L'exemple même du crush, c'est que, en fait, l'attente, elle est aussi intéressante quand on connaît l'issue ou qu'on sent vraiment profondément que... Typiquement, pour l'intérêt amoureux, notre intérêt amoureux va aboutir. Donc, il y a un truc de « Ah, on va prendre le temps de se draguer. » Mais parce qu'il y a une forme de réciprocité dans l'attente et c'est une attente presque choisie, etc. Mais en fait, des fois, il y a aussi un truc de « On se languit de l'autre et on est dans un crush qui nous fige et nous paralyse. » Et en fait, on n'arrive jamais à dépasser ce stade de l'attente.
La fameuse situationship.
La fameuse situationship où en fait, on sait très bien que notre attente, elle ne sera jamais comblée. Ou pas comme on le souhaite. Pas conformément aux projections qu'on a forgées. Et donc, il y a une vraie souffrance, il y a une vraie passivité, encore une fois, subie, mais peut-être un peu choisie aussi. Je ne sais pas à quel point on choisit aussi de projeter telle ou telle chose sur l'être aimé ou l'objet de notre désir. Mais ça reste un peu un terrain glissant, je trouve, l'attente amoureuse.
Roland Barthes, dans Le discours amoureux, dit que justement, si... Donc, je cite, si une seule définition était possible du sujet amoureux, ce serait celle-ci. Le sujet amoureux est celui qui attend, de toutes les manières, de l'attente fondamentale et comme permanente du comblement, de la présence, jusqu'aux attentes les plus contingentes, non moins angoissantes. L'attente d'un rendez-vous, d'une lettre, d'un téléphone. Et justement, je parlais avec une copine du film de Wong Kar-wai, In the Mood for Love, et je vais peut-être décevoir des gens ici, mais je lui disais que j'avais pas du tout accroché, que j'avais trouvé le film très très long en fait. Et elle me disait que justement, c'est tout le propos du film, c'est-à-dire que c'est un film où les personnages passent leur temps à s'attendre et où c'est censé justement illustrer cette attente amoureuse qui se rallonge et cette espèce de temps très très sensible qui se dilate. Et finalement, cette sensibilité est d'autant plus manifeste que à chaque fois que les personnages sont en train de s'attendre dans le film, elle me faisait remarquer qu'il y avait la musique, le thème du film composé par Shigeru Umebayashi, j'espère que j'écorche pas son nom, qui intervient à chaque fois que les deux personnages s'attendent et du coup revient de manière récurrente dans le film. Donc quand elle m'a dit ça, je me suis sentie extrêmement bête.
Non, il faut pas.
Du coup, j'ai beaucoup plus saisi effectivement la teneur et la consistance du film. C'est le sujet du film, en fait, l'attente amoureuse. Ouais. Quoi.
Donc, il y a un intérêt à l'attente. Ça me fait penser à Simone de Beauvoir, en fait, qui, dans notamment le deuxième sexe, mais en fait un peu dans toute sa philosophie, particulièrement dans le deuxième sexe quand même, dans la partie 1 où elle parle de la jeune fille, elle explique en fait que la jeune fille, elle se construit, donc particulièrement au moment de l'adolescence, il y a une conscientisation de sa posture de femme dans la société patriarcale et une conscientisation de son corps. Donc déjà, il y a une forme de dédoublement, d'auto-objectification. Donc en fait, la jeune fille se voit agir. Donc c'est un peu bizarre parce qu'elle n'est pas dans l'instant présent, etc. Et en plus, elle dit notamment qu'elle se prend à se faire proie. Donc il y a un vrai truc de... en fait, elle se surprend, elle se dédouble, elle se voit se faire proie par rapport aux hommes dans la dynamique de séduction hétérosexuelle. Et donc, elle se voit se mettre elle-même dans une sorte de posture d'attente, une posture de passivité. En fait, elle va attendre d'être choisie par un homme, ou un homme précis ou non, en fait. Mais elle va tout faire, en fait, pour se préparer à être une bonne femme, une bonne épouse.
Ça, ça veut dire la question des attentes sociales. Pardon, non, mais c'est ça.
C'est ça.
Remplir un certain nombre d'attentes pour un homme, par exemple, que ce soit une femme qui puisse faire des enfants, qui ait un temps disponible, ouais. Qui soit douce, qui soit gentille. Les attentes sociales, elles vont... Il y a ça aussi dans l'idée d'attendre. C'est toutes les attentes sociales et les choses qu'on doit faire pour les autres.
Et du coup, il y a encore une fois une forme de passivité parce que ça s'impose à nous, en fait. Ouais. Et on va l'intégrer parfois, souvent inconsciemment, en fait, et se dire qu'on n'a pas d'autre choix que d'attendre, et particulièrement, selon Beauvoir, telles que les femmes. Bon, après, son époque, c'est vraiment les femmes bourgeoises particulièrement sur lesquelles elle se concentre. Les femmes bourgeoises blanches occidentales, je précise. Mais parce que sûrement que les femmes ouvrières n'avaient pas forcément la même condition qu'elles, quoi, à son époque. Mais en fait, il y a un vrai truc d'attente un peu... Enfin, elles sont presque vouées à l'attente, conditionnées à l'attente.
Elle parle d'immanence, justement.
Ouais, et elles sont conditionnées à l'immanence, ouais. C'est ça. Et une forme d'aliénation, du coup, dans ça aussi, elle explique. Et justement, il y a aussi l'exemple de la femme au foyer qui est dans son foyer et fait des tâches ménagères répétitives. Et donc, ça ramène à l'immanence le truc de... Elle est tout le temps dans une forme de... Ouais, elle peut pas se transcender et exister comme un projet. Justement, à ce moment-là, l'attente, elle est pas projetée vers quelque chose. Elle est juste dans l'attente de.
En fait, l'attente, j'ai l'impression que dans cette perspective, l'attente, elle dure qu'une journée.
Ouais.
Et c'est une journée c'est une attente qui de 24 heures qui est sans cesse répétée. Et je trouve qu'il y a ça qui est intéressant aussi, c'est sur combien de temps l'attente est projetée. Enfin, je sais pas. Enfin, je pense à quand moi je suis rentrée en master. L'attente du diplôme, de la fin du mémoire, d'être libre. Je ne suis pas libre parce que j'ai commencé un nouveau master. Mais l'attente, à ce moment-là, elle se déploie sur 2 ans. Et je pense que chacun, en fonction de ses projets, l'attente se déploie sur un temps plus ou moins long. Et ça laisse une latitude d'action, une latitude de projection. Et peut-être qu'on est plus libre. Enfin, après, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on est libre dans l'attente? Est-ce qu'on est libre de façon générale? Mais... en fonction de combien de temps l'attente se déploie.
Ouais. Et en fait, si c'est tout le temps la même attente qui se répète, sans qu'il y ait en fait de réalisation, de transcendance
de
à un moment.
De dépassement de cette attente, du but, de l'issue de l'attente.
C'est ça. Et c'est pour ça que Simone de Beauvoir, elle caractérise cette attente-là féminine comme aliénante, parce qu'il n'y a justement pas ce truc de... par exemple, sur 2 ans, je vais être dans une attente et ensuite je vais réaliser un projet en particulier. Puis après, je vais retomber dans une attente de 1 an, 2 mois, enfin, je ne sais pas. C'est qu'en effet, cette attente, elle est... genre éternel, enfin, à l'échelle d'une vie féminine, dans le foyer, il y a un truc d'éternité de l'attente, éternel retour du mari le soir, éternelle attente, je sais pas, d'avoir des enfants, éternelle attente de... Et c'est tout le temps la même chose qui va se répéter, qui est décuplable, ça se dit pas.
Qui
peut se décupler à l'infini, on va dire.
Mais est-ce qu'il y a toujours attente quand il y a répétition et quand il y a habitude? Moi, je me demande vraiment, je suis pas sûre, tu vois.
Ah ouais, pourquoi?
Parce que t'as plus du tout cette dimension d'ouverture de l'attente et d'incertitude et surtout d'indétermination, en fait. Quand tu sais que quelque chose va arriver, parce que c'est ta routine, en fait, c'est les habitudes de ton quotidien, je suis pas sûre que tu l'attends de...
C'est peut-être là, du coup, que se loge la capacité d'être actif et de s'approprier aussi ce temps de l'attente, enfin, qui serait pas du tout un... Pas vraiment, un temps de l'attente, si on prend comme tu le dis.
Oui, donc, enfin, après, comme tu disais, du coup, il y a sûrement ce truc de la nouveauté, ça permet de recréer de l'attente, peut-être. enfin je sais pas, et l'habitude ça la supprime. Je sais pas, mais ça me fait penser, ça me refait penser à l'enfant en fait. Pourquoi l'attente elle est aussi insupportable quand on est enfant? Je pense que c'est parce que tout nous paraît nouveau, et donc on sait pas du tout, on peut pas prévoir à l'avance quand est-ce que les choses vont arriver, quand est-ce que le temps d'attente des courses va se terminer. Et alors qu'en fait quand on est adulte, il y a aussi, c'est l'expérience qui va nous permettre de pallier à l'attente.
Après, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Oui, dans l'absolu. Il y a toujours une imprévisibilité du temps, dans l'absolu, ouais. Donc peut-être qu'on est toujours des enfants, finalement, face à l'attente, face à la nouveauté.
En fait, il y a toujours une imprévisibilité, mais souvent, il y a des choses qui vont se répéter. Et justement, le moment où elles ne se répètent pas, il y a un choc, il y a une rupture dans le réel. Et moi, ça me fait penser au traumatisme. Mais c'est un peu comme ça qu'on peut définir le traumatisme dans certaines situations. C'est une rupture avec l'habitude, avec la vision qu'on a du réel. Et si on se replonge dans l'exemple de la femme au foyer, je sais pas, si un jour son mari rentre pas le soir, bah là elle va être de nouveau replongée dans une attente, du coup, de quand est-ce que mon mari va rentrer. Et il y aura un peu peut-être aussi un traumatisme s'il rentre jamais, parce que bah forcément il y aura un traumatisme, parce que s'il rentre jamais c'est qu'il y a un truc qui va pas, mais une rupture avec la conception qu'on a du réel, la norme qu'on s'est forgée du réel dans notre esprit, quoi. Ce qui était intéressant aussi dans ce que t'as dit tout à l'heure, c'est le truc de, je sais pas si quand il y a de l'habitude, il y a encore de l'attente. Mais du coup, malgré tout, Beauvoir, elle pense ces habitudes-là, etc., des femmes au foyer, comme une forme d'aliénation. Même si peut-être c'est pas de l'attente, il y a une forme d'aliénation. Mais du coup, peut-être que. Donc, c'est avant tout de la passivité face à son quotidien et face à son devenir qui en devient aliénante. Mais du coup, ça veut dire que l'attente, c'est pas non plus un degré de passivité extrême. Puisque, on pourrait se dire que du coup, il y a un truc de. Vu qu'il n'y a pas une habitude récurrente, etc., et qu'il y a un incertain et impossible dans l'attente, en fait, on ne peut pas être dans la passivité extrême parce qu'il y a une sorte de préparation nécessairement à l'arrivée de l'événement qui, en fait, fait que. Bah, on se prépare même, ne serait-ce que mentalement, à l'arrivée de quelque chose. Donc on crée toujours des projections, des choses qui se passent dans notre esprit qui vont nous pousser à être quand même agents de quelque chose.
Donc il y a un intérêt dans l'attente.
Ouais. Exactement.
Après, je me questionne parce que tu te prépares, mais dans la préparation, on est dans une projection mentale.
Ouais.
On est du côté de la représentation. Et du coup, on n'est pas. Je trouve qu'on est moins dans l'agentivité, justement. On va basculer dans l'agentivité. Et du coup, comme disait Sartre, les existentialistes se réinventaient à chaque fois. À partir du moment où on est du côté de pas de la représentation, de la préparation, mais vraiment ni de la projection d'ailleurs, mais de la transformation, quoi.
Ouais.
Donc.
En fait, ça dépend comment on conçoit l'agentivité, je pense aussi. Est-ce que le fait de penser, c'est déjà être agent? Est-ce que le fait de créer des nouvelles pensées, parce qu'en fait, la projection, c'est quand même une création de nouvelles pensées. Alors qu'on peut avoir des pensées habituelles aussi, des pensées récurrentes, etc. Mais tu vois, à partir du moment où, je sais pas, tu projettes, tu t'imagines un futur, il y a une forme de création, et donc il y a peut-être une forme d'agentivité mentale. Tu vois, une forme de conscience, de déploiement de la conscience qui peut être.
Ouais, carrément, mais du coup, c'est pas réel.
Ouais, c'est pas concret.
C'est pas réel, c'est pas concret, c'est pas quelque chose qui s'expérimente, ça n'existe pas en dehors de ta tête, quoi. Donc, alors que justement, le fait d'agir, donc l'action, ça implique le passage à l'acte par rapport à une possibilité première. C'est un peu l'opposition, genre puissance-acte, quoi.
Ouais, complètement.
Moi, en tout cas, je le vois comme ça.
Non, mais c'est vrai qu'il y a, il y a un truc de. Parfois, dans l'attente, tout est en puissance. Ouais, c'est comme si on préparait, enfin, on laissait les choses mûrir en nous en puissance pour qu'ensuite elles puissent advenir dans le réel et qu'on puisse rompre l'attente.
Ouais.
Et du coup, bah, ça pose en effet la question de est-ce qu'on peut agir dans l'attente.
Moi, je pense que ce moment de formation, un peu d'ébullition, enfin de même si c'est que dans la pensée de on tend vers un acte créateur, il est important. Enfin, c'est Épictète dans les entretiens qui invite à tenir compte du temps nécessaire à la progression sur la voie de la sagesse. Et donc, il y a l'idéal de maîtrise de soi et de tempérance. Dans l'idéal stoïque, quoi, qui vient à la fin, mais il valorise vraiment ce temps de ce que tu désignais un peu comme l'intervalle, enfin ce temps entre deux, et il lui confère vraiment une importance. Et je pense qu'on peut rapprocher ça de l'attente et montrer que l'attente, elle peut être féconde, et elle en tant qu'elle amène vers quelque chose, c'est un moment de formation.
Ouais, c'est un peu comme une graine qui germe progressivement et qui un jour va percer la terre, quoi. On va dire que l'attente, c'est un peu la graine en nous, quoi. Oui. Ouais. Mais du coup, est-ce que. Enfin, en fait, quand cette graine, elle germe. Donc elle agit quand même.
Oui.
Et donc, en fait,
donc,
on dit.
Il n'y a plus d'attente.
C'est ça. Et du coup, on dit que. Enfin. C'est un truc de les projections qui se forment petit à petit, qui vont ensuite nous mener à l'action. Mais est-ce qu'on peut pas imaginer une attente active où, en fait, déjà agir, c'est préparer une action un peu plus importante, un peu plus réalisante, enfin, qui va nous permettre de nous réaliser comme un projet.
Vous allez écouter la bande-son originale de In the Mood for Love, composée par Shigeru Umebayashi. D'écouter la bande-son originale de In the Mood for Love, composée par Shigeru Umebayashi. Peut-être on pourrait dire que, du coup, attendre, c'est vivre finalement une vie d'intervalle, vivre dans la durée, et là on rejoint ce que tu disais sur Bergson, et, parce que finalement si on vivait une vie de succession d'instants, ce serait juste un recommencement ponctuel. Donc c'est comme si finalement l'attente donnait un sens à notre temporalité et qu'elle tenait ensemble en fait les moments du temps, et dans ce sens-là elle est très proche du rôle de la conscience de la conscience en fait, parce que la conscience c'est ce qui relie justement les segments de la vie entre eux de manière parallèle au temps, et c'est justement parce que la durée a un sens, puisque notre vie est faite de blocs de segmentation de durée, et que cela donne justement un sens au temps. Et donc il y a comme dans l'attente un effet de repérage dans la continuité et la fluidité du temps qui permet en quelque sorte de le segmenter. Et par rapport à ça, je voulais citer Sartre dans L'être et le néant qui dit « S'attendre à la mort n'est pas attendre la mort », dans le sens où il y a l'établissement d'une distinction à faire entre le fait d'attendre quelque chose qui est toujours un concept déterminé. Finalement, on attend toujours quelque chose de précis, de déterminé. Mais à ce moment-là, on peut dire que seul le condamné à mort ou le malade attendent véritablement leur mort. Mais nous, on s'attend pas à la mort. On sait juste pas quand est-ce qu'elle va arriver, quoi. Et l'hypochondriaque, par exemple, c'est celui qui vit dans l'angoisse d'attendre la mort, qui sent le danger de la mort à tout instant et en a peur, alors qu'en réalité, il ne fait que s'attendre à la mort. Et donc, je voudrais finir sur le concept que Yankelevitch nomme la futurition, qui finalement désigne le temps du présent et qui définit le temps du présent comme un futur, en fait. C'est-à-dire que le présent, c'est une ouverture vers la futurition, puisque tout est à devenir, tout est possible. Et il n'y a pas la fatalité, il n'y a pas que, en tout cas, la fatalité de notre destin qui est clos. Le présent, c'est justement le temps dans lequel tout demeure possible. Et l'attente, c'est ce mouvement par lequel on s'approprie le temps, dont on ignore la durée précise. C'est toujours... l'attente, c'est toujours avoir un projet et considérer que la temporalité n'est pas seulement une succession d'instants, mais la possibilité toujours maintenue d'avoir un projet dans le futur.
Ok, donc là il y a un vrai truc choisi en fait dans l'attente que tu me décris. C'est le choix de l'attente et la volonté d'attendre pour donner une forme de sens présent en fait, enfin au présent et à l'existence présente.
Rendre en fait à l'attente son statut d'intervalle, mais pas dans ce qu'elle peut avoir d'angoissant d'une intervalle fixe, flottante, exactement entre la prévision et la réalisation d'un objet qui est soit craint, soit désiré, mais vraiment saisir toute l'épaisseur, la constance du temps et la vertu de juste être là et le sentir s'écouler en fait.
Ouais. Et donc en fait ça va à l'encontre, en fait je reviens encore sur Simone de Beauvoir parce que je trouve que ça permet de bien comprendre aussi. En fait je pense que l'attente dont parle Simone de Beauvoir au final c'est un peu une attente absolue. Enfin en fait le fait que ça se répète justement que la vie des femmes qu'elle décrit, les femmes bourgeoises domestiquées, c'est horrible, on dirait que c'est des animaux, et qui sont au foyer, etc. Il y a un truc de répétition perpétuelle, justement, de succession de moments qui, en fait, sont contingents, où c'est tout le temps la même chose, et il n'y a pas vraiment de réalisation absolue. Et donc, en fait, l'attente, elle est absolue. C'est une forme d'attente de salut, de trouver une forme de salut à travers la reconnaissance de leur mari, ou à travers juste, l'idée que leur vie aura du sens et a du sens juste à travers le fait qu'elles sont femmes au foyer et c'est l'attente perpétuelle au final et inatteignable d'un salut final, on va dire. Alors que quand l'attente elle est choisie, il y a un vrai truc de on va attendre la concrétisation de quelque chose, mais c'est un acte volontaire et c'est un acte ponctuel aussi qui va se répéter sous plein de formes différentes, ça sera jamais la même chose. Et donc là, il y a la possibilité d'une réalisation bien plus concrète et d'une transcendance qui n'est pas possible du coup à travers l'attente aliénante dont parle Simone de Beauvoir, quoi. Et ça me fait penser à, l'attente dont parle Simone de Beauvoir, ça me fait penser à En attendant Godot de Beckett. Et du coup, ça fait aussi penser à une attente plus métaphysique. Le truc de, En attendant Godot, je vais réussir à le dire, dans cette pièce de théâtre, en gros, on a deux personnages. Donc j'ai oublié le nom, vous m'excuserez, qui attendent tous les deux, et on sait pas trop ce qu'ils attendent en fait, ils sont juste là genre bah j'attends, et en fait tout leur dialogue est basé sur cette attente là, et on comprend qu'ils attendent Godot, en fait Godot c'est une allégorie pour Dieu, enfin Godot, God, voilà. Qui ne viendra jamais, et en fait c'est une attente du coup qui n'aboutira jamais à un événement. Et donc là, il y a une vraie forme de passivité. Et dans cette pièce de théâtre-là, Beckett essaie de mettre en scène l'absurdité de l'existence et de l'attente métaphysique d'un salut absolu et d'une concrétisation finale. Donc en fait, je pense que c'est intéressant aussi dans la mesure où on a l'impression que l'attente prend sens et est utile à l'existence quand elle est justement ponctuelle, comme tu le disais. Mais que si on s'accroche à une attente trop grande, à l'attente d'une concrétisation salutaire et absolument suprême, il y a une forme d'absurdité qui peut advenir, quoi, parce qu'on ne l'atteindra jamais.
Mais dans l'attente dont tu parles, notamment la question du salut, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très vertical qu'on retrouve dans la religion, mais aussi dans nos sociétés capitalistes, patriarcales, etc., contemporaines. J'ai l'impression que la promesse du salut et la promesse de quelque chose qui viendra après l'attente, ça permet un peu de créer de la discipline et de former les gens à juste rester dans la passivité, comme tu dis, rester dans l'attente, rester dans le calme, enfin tout cette rhétorique du salut, je pense que c'était quelque chose qui était utilisé il y a des centaines d'années pour un peu discipliner les classes populaires, leur faire croire que quelque chose viendrait après et que juste il faut être patient et que les misérables seront récompensés dans une autre vie. Oui, je suis en train de lire Zola en ce moment. Donc ouais, il y a ce truc de, en fait, pouvoir faire attendre les autres, c'est vraiment avoir un ascendant sur eux et c'est vraiment un outil de pouvoir.
Ouais, à partir du moment où l'attente est imposée à des individus par d'autres individus et que ça s'inscrit dans une relation intersubjective, en fait, il y a une dimension qui est presque injuste dans l'attente.
Ouais.
Même si on parle d'une attente métaphysique, etc., dans le fait d'attendre Dieu, en fait, c'est quand même, pour l'exemple de, tu disais, c'est imposé par une certaine classe sociale, classe populaire, en vrai, c'est vrai que pendant le Moyen-Âge, c'était imposé par l'institution de l'Église catholique, ouais, en tout cas en Occident, à la majorité des individus, et tout était basé, toute la société était organisée autour de cette attente du salut final, du jugement dernier. Et donc, en fait, c'était un prétexte pour prendre de l'argent aux gens et faire en sorte que les gens donnent, ouais, toutes leurs ressources à l'Église catholique et que l'Église catholique s'enrichisse. Et en fait, on peut se demander à quel point les religieux de l'époque étaient eux-mêmes dans une attente, et quelle attente, enfin, comment leur attente à eux se définissait. Est-ce que c'était aussi une attente subie, ou est-ce qu'il y avait, vu qu'ils avaient une position de pouvoir par rapport, on va dire, aux personnes des classes populaires, est-ce que leur attente était différente? Est-ce qu'ils étaient même dans une forme d'attente? Ou est-ce qu'ils avaient juste une forme de, il y avait juste une forme de manipulation de cette attente-là, tu vois?
Grande question.
Autour des institutions, comme, ouais, l'exemple de l'institution catholique, elle est intéressante, mais ça oui, s'applique aux institutions politiques.
Ça s'applique totalement à l'État aussi. Enfin, c'est Engels dans L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État qui dit que tout attendre de l'État, c'est lui faire confiance. Or, l'État, c'est une institution bourgeoise qui sert les intérêts des classes dominantes de l'élite, et c'est un outil de domination sociale et économique. Et que le peuple attende que l'État réponde à un certain nombre de revendications, c'est se mettre soi-même peut-être en échec, parce que l'État ne... C'est... Enfin, on ne va pas dire que ce n'est pas la solution, mais c'est... Enfin non, moi je pense que ce n'est pas la solution et que... C'est, ouais, ben, oui, en tant que c'est un outil capitaliste, patriarcal, colonial, etc.
Mais en fait, tout dépend du degré d'agentivité qu'on donne par rapport à cet état-là, et à quel point, en théorie, dans une démocratie, c'est les citoyens qui élisent leurs représentants, et on leur présuppose une forme d'agentivité à travers les élections, etc. Et donc, ils ne sont pas nécessairement dans la passivité, on ne leur impose pas tout, parce qu'ils peuvent choisir, on va dire, dans, ouais, l'idée, hein, qui va les représenter. Sauf que dans les faits, déjà, l'agenda électoral, il est imposé. Et en plus, bah, les personnes qu'ils vont élire restent des individus qui appartiennent à cette même classe bourgeoise. Généralement, ça dépend. Il y a aussi quand même des, oui, gens qui sont issus des classes populaires. Mais c'est vrai que souvent, enfin, en tout cas, en France, par exemple, il y a un entre-soi des politiques, je pense, qui est assez avéré. Mm. Donc, à quel point, en fait, cette domination de l'État, elle est subie, et à quel point aussi, du coup, ça pousse... Enfin, on peut se demander si les gens, du coup, sont vraiment dans une attente active, par exemple, l'attente entre chaque élection, ou s'il y a une forme de passivité dans tous les cas.
Je pense qu'il y a une attente active. Enfin, si on prend la situation actuelle, les présidentielles à venir bientôt, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont actifs, dans le sens où ils vont militer, ils vont faire de la prévention contre le RN. Et donc, cette attente des élections à venir, elle est active, mais toujours dans un certain cadre, dans le cadre des élections. Et ce cadre, il est difficile à déborder. Enfin, je pense notamment au fait qu'on ne peut plus manifester si librement que ça. Mmh. C'est compliqué d'exprimer son mécontentement, son opposition au régime. Mais, mais donc voilà, enfin, ouais, y a une attente qui est passive, mais... Non, pardon, il y a une attente qui peut être active, mais toujours dans un certain cadre.
Elle est encadrée par des règles. Et donc, en fait, on dirait presque que c'est une attente. Enfin, que du coup, quand on manifeste, quand on fait, bon, par exemple, les personnes qui se mobilisent contre le RN, etc., dans ce cadre-là, il y a un truc de presque contrer l'attente subie pour, oui, se réapproprier l'attente et rendre l'attente active, mais en fait, vraiment en contradiction avec l'attente institutionnelle. On recrée une autre bulle. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais enfin, je sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en venir, ouais, mais c'est le truc vraiment de lutter contre justement la fatalité d'un temps réglé et d'un temps qui nous a imposé, ouais, pour pas subir justement la durée, si on revient à Bergson, mais genre
le militantisme,
c'est, ouais, ça, et pour
mais
pas subir.
On peut définir les luttes comme contrer l'attente, ouais, et contrer un agenda politique qu'on nous impose, contrer...
Donc redéfinir nos attentes aussi.
Oui, c'est ça. Ouais.
C'est-à-dire les attentes politiques que les individus ont quand ils militent, ils ont quand même des attentes. Ouais. Ils vont être les attentes d'un futur plus égalitaire, d'une société plus progressiste, etc. Donc il y a quand même des attentes derrière. Et en même temps, j'ai l'impression, en tout cas actuellement en France, les militants, ils ont, à la fois ils le font, mais il y a aussi, à cause de l'encadrement justement de cette attente-là, et de la restriction par le cadre politique et policier, et etc.
Électoral.
Voilà. Il y a une forme de... enfin, l'espoir n'est pas entièrement là, quoi. Il y a aussi une forme de d'attente un peu résignée. De, ouais. On espère que la société sera meilleure, mais on n'est vraiment pas sûr d'atteindre notre objectif, quoi. Moi, je suis pas sûr que cette attente aboutisse.
C'est difficile d'avoir, enfin, d'attendre sans espoir.
Ouais.
Et je crois qu'il me semble que c'est Yankelevitch qui dit ça, qui dit que l'attente, elle est jamais ennuie si elle comporte de l'espoir. Et je pense que c'est très important d'avoir de l'espoir dans les luttes et dans, bah, dans l'attente d'un futur, d'un grand soir peut-être.
Ouais. Mais du coup, ouais. Il y a un truc, du coup, par contre, je pense dans l'attente, encore une fois, dans le cadre politique, ça peut être intéressant aussi de se dire, est-ce que les personnes qui militent et qui projettent ces attentes-là politiques, est-ce qu'elles s'attendent à ce que cet événement se réalise, enfin les événements qu'elles projettent se réalisent dans leur temps à elles, dans leur temps présent à elles, dans leur existence à elles, ou est-ce qu'il y a même une forme de où l'attente excède leur existence et donc leurs attentes, elles existent même plus dans le but d'une réalisation dans leur existence à elles, et il y a un truc de transcendance en fait.
Dans le fait de paver la route pour des luttes futures qui viendront après.
Ouais, et le fait que, bah, en fait, est-ce que vraiment, quand on milite pour une société plus égalitaire et progressiste, est-ce qu'on verra l'aboutissement de nos attentes? En tout cas, l'aboutissement absolu, encore une fois, et transcendant, ouais. Je pense pas qu'on le verra. Est-ce qu'on le verra un jour, même une génération plus tard? On sait pas, mais bref, voilà.
Parce que c'est un domaine qui s'établit sur le temps long, quoi. Enfin, ouais. C'est des choses qu'on doit mettre en place de manière très progressive. Et ou alors on est complètement pro-révolution, et ça dépend en fait si on est réformiste ou plus pro-révolution, quoi.
Ouais, alors que bah, la réforme, il y a un truc de on change petit à petit les choses, et donc en fait on voit quand même l'effet de nos attentes, on essaie de mettre en place des petits trucs qui vont nous mener vers des plus grands trucs, alors que la révolution, il y a un peu un truc de bah, il faut se soulever,
on fait table rase, quoi.
Et en même temps, est-ce que les attentes se réalisent directement après la révolution? Il y a quand même du coup tout à reconstruire.
Ouais.
Donc il y a de nouveau une forme d'attente qui s'installe, quoi.
Ouais.
Et il y a quand même. Je sais pas si c'est Je sais pas si c'est vraiment une attente, parce que du coup on n'a pas d'attente dans le. Enfin, nos attentes sont les nôtres et on les fait se matérialiser. Enfin, je sais pas. Je qualifierais pas l'après-révolution comme une attente, mais plus comme un.
Pour le coup, quelque chose
de l'actif. Enfin, quelque chose de purement actif.
Après, c'est peut-être une attente active, du coup. Tu vois, parce que on attend. Enfin. Il y a quand même un truc de... on est passé des projections mentales à un truc plus concret, mais en soi, l'aboutissement, par exemple, d'une société prolétaire, telle que le pense Marx, etc. Enfin, c'est quoi? C'est la dictature du prolétariat. Et ensuite, après, il y a l'après encore. C'est pas... Oui. Justement, il y a la phase transitoire de la dictature du prolétariat. Ouais. Donc, en fait, il y a encore plein de choses en puissance. Et même si on est dans l'action de reconstruire une nouvelle société... l'aboutissement de la société égalitaire, etc., il n'est pas encore là, quoi. Et du coup, en fait, tout ça, ça me fait quand même penser à Simone Veil, avec un W. Pas celle à qui on doit l'IVG, mais une autre, une philosophe, de la même époque que Simone de Beauvoir. Voilà. Qui est pas si connue que ça.
Mais tout aussi stylée.
Qui est très stylée. Et qui, en fait, sa pensée est assez opposée à celle de Beauvoir, justement, parce que pour le fun fact, elles s'aimaient pas trop. Elles étaient ensemble à la Sorbonne et elles s'aimaient même pas du tout. Donc même dans leur philosophie, on voit qu'il y a des antagonismes, en fait. Et bah en fait, contrairement à Beauvoir qui va penser l'attente plutôt comme une forme d'aliénation, et bah en fait, Veil, elle le voit vraiment comme quelque chose de volontaire. Parce qu'en fait, sa pensée est vraiment empreinte de religion et de sa croyance en Dieu. Et elle voit la posture de l'attente comme une manière de se tenir vide et d'accepter en fait le vide qu'on a en nous, qui s'oppose en fait, cette posture-là, elle s'oppose au fait de désirer, d'essayer de combler nécessairement un manque sans se mouvoir, etc. Elle le voit vraiment comme le fait de renoncer à agir nécessairement, enfin... C'est de renoncer volontairement en fait à agir sur nos désirs et accepter le vide un peu existentiel, l'incertitude existentielle, et se maintenir en fait ouvert à l'arrivée. Bah, elle, du coup, c'est, il y a un côté un peu spirituel, donc l'arrivée qui n'arrivera peut-être jamais, mais juste l'arrivée de Dieu. Enfin, ça revient un peu à ce qu'on disait aussi sur l'institution religieuse juste avant, mais elle le caractérise comme une posture spirituelle radicale, donc vraiment voir l'attente pour ce qu'elle est, la voir comme un événement en soi et comme une posture existentielle, en fait. Et comme une forme aussi de transcendance à travers la projection dans une idée plus grande, donc ça peut être l'idée de Dieu, l'idée du bien, l'idée de la vérité. Et elle, donc ça, il y a une citation que j'avais notée de Veil, qui est « Notre attente est toujours celle du bien ». Donc vraiment une posture d'ouverture de nécessairement ce qui va arriver, peu importe ce qui va arriver, sera quelque chose de bien. Et donc en fait, c'est bizarre, mais c'est une forme de passivité volontaire. C'est ni de la vraie passivité, parce qu'on ne subit pas l'attente, et en même temps, c'est pas non plus la volonté d'aller au-devant de ses désirs et de se réaliser à travers la concrétisation d'un projet en particulier. C'est vraiment l'ouverture à l'existence, quoi. Et je trouve ça assez intéressant comme posture, parce que ça dépasse un peu ce qu'on disait avant, que ce soit l'attente comme passivité ou comme action.
Justement, chez ce que tu disais, ça me faisait penser... La différence en fait entre une forme de passivité et en même temps une forme d'action qui prend le relais une fois que qu'un événement advient et finalement nous transforme, ça me fait penser à la distinction que fait Maldiné entre la transpassibilité et la transpossibilité dans Penser l'homme et la folie. Et justement chez Maldiné, le transpossible, c'est, ça désigne tout ce qui reste de l'ordre du possible, qui est anticipable et qui peut être incertain, qui est encore projeté, attendu, représentable. Donc c'est finalement la structure même de l'attente, le transpossible, alors que le transpassible, c'est l'ouverture à l'événement qui ne réalise aucun possible, mais qui transforme justement le monde et le moi. Donc, c'est comme si finalement l'attente appartenait au transpossible, et alors que l'événement véritable relève du transpassible. Il n'attend rien, il arrive en propre, quoi.
Mmh. Et du coup, en fait, finalement, l'attente pensée par Simone Veil, c'est à la fois le transpossible et le transpassible, en fait, qui coïncident, quoi. Parce qu'il y a un truc de... l'attente en elle-même est un événement, quoi. Chez Simone Veil en tout cas. Donc ça dépasse la conception, enfin l'opposition de Maldiné, j'ai l'impression en tout cas.
Ouais, mais en même temps il n'y a pas cette dimension d'indétermination et du coup de surprise que peut introduire l'événement qui du coup transforme le moi. Enfin, en fait j'ai l'impression que chez Simone Veil il y a vraiment une direction qui est déjà établi, c'est-à-dire que ce qui nous arrive nous vient de Dieu, entre gros guillemets, et du coup c'est nécessairement bien. Alors qu'un événement, c'est pas toujours quelque chose qui transforme de manière positive l'identité du moi, quoi. Enfin,
c'est sûr.
C'est une ouverture totale, et du coup, dans cette ouverture, il y a aussi une forme de péril, quoi.
Mmh. En fait, c'est aussi un biais positif qu'a Simone Veil, quoi.
Ouais, parce qu'elle prend justement l'attente dans sa dimension d'espérance, d'élan vers la foi, de croyance, qui est quelque chose qu'il faut avoir. Et là, on retombe sur Yankelevitch qui disait là où il n'y a pas d'attente, il n'y a plus que de l'ennui, il n'y a plus que du désespoir, quoi. Et donc oui, c'est une attente foncièrement positive, mais je trouve un petit peu restrictive aussi.
Ouais. Ouais, et en même temps, enfin du coup, ça veut dire que si, par exemple, Simone Veil, j'imagine que du coup, quand il lui arrivait des mauvaises choses, elle se disait que c'était pour son plus grand bien et que c'était Dieu qui lui envoyait une épreuve, quoi.
Ouais, et, capacité à positiver.
ouais, positive attitude à mort, quoi. Et elle voit pas ça comme une forme de passivité, mais c'est vrai qu'on pourrait quand même le voir comme une forme de passivité face à l'événement, finalement. Parce que c'est s'en remettre à quelque chose.
À une force extérieure.
C'est ça.
C'est le réceptacle de...
Ouais.
Des aléas de la vie.
C'est ça, en fait, et se dire, bah, du coup, de toute façon, c'est pas moi vraiment qui suis responsable de ce qui m'est arrivé, et même pas forcément de comment réagir face à cet événement-là. C'est Dieu qui m'a envoyé cette épreuve-là, et il me donnera la force de surmonter tout. Après, j'imagine qu'elle agissait quand même concrètement face au mauvais événement qui lui arrivait, mais en pensant, en fait, que c'était une sorte de puissance divine qui agissait à travers elle. Donc c'est intéressant aussi comme conception. Peut-être c'est un peu dépossédé elle-même de la gentilité.
Oui, c'est ce que j'allais dire, justement. C'est comme s'il n'y avait plus d'ipséité, dans le sens où on ne s'habitait plus en propre, mais où on devait se vider, comme tu disais tout à l'heure, de toute chose et de toute attente, peut-être même singulière ou projection singulière, pour laisser venir quelque chose qui viendrait de l'extérieur, quoi. Ouais. Mais de l'intérieur aussi, parce que quelque part, ça vient de la foi. Le fait de s'auto-persuader comme ça que ce qui va advenir vient de Dieu et donc que c'est forcément bien pour nous, même si ça nous fait du mal sur le moment, ça permet de relativiser certes, mais oui, donc il y a une sorte, chez Simone Veil, on s'habite plus en fait en propre, quoi. Alors que l'attente, c'est vraiment ce réinvestissement, je trouve, de notre temporalité et de nous-mêmes. Parce que du coup, on se retrouve face à nos désirs, on se retrouve face à nos projections. C'est aussi un moment où, en fait, on est, c'est un moment très privilégié où on est en relation avec, avec nous-mêmes, où on entre en dialogue, où on essaie de dealer avec ce qu'on désire et en même temps ce que l'on craint, quoi.
Tout ça, ça me fait vraiment penser à l'expérience de la grossesse. Enfin, un truc qui est un événement vraiment en soi, mais qui tend vers quelque chose d'autre et qui nous confronte à tellement de choses. Enfin, je sais pas si...
Ouais, complètement, parce que c'est un événement. Enfin, on construit des os, ouais, genre littéralement la femme qui porte un enfant.
Il y a un truc de très actif, mais en même temps, bah, tu attends 9 mois, donc c'est long. Enfin...
Ouais, et c'est une attente active, parce qu'il y a quand même ce truc de... bah, la femme enceinte, généralement, elle va préparer l'arrivée du bébé de plein de manières différentes. Ouais. Préparer sa chambre, préparer... je sais pas, se projeter aussi sur comment elle va l'élever... et genre littéralement son corps agit de manière inconsciente, mais il agit pour construire l'enfant qui est en elle.
Ouais.
Donc ouais, et en même temps il y a quand même de base le choix de cette attente, puisque il y a, bon, sauf quand c'est des grossesses indésirées, pas tout le temps, c'est vrai.
C'est
après maintenant avec l'IVG on a le on a le choix quand même de ou pas conserver, on va dire cette fin, de laisser cette grossesse se déployer en nous, quoi. Donc le choix est peut-être un peu plus grand qu'avant, enfin, en tout cas en Europe. Hein.
Oui.
C'est pas, et pas partout en Europe d'ailleurs. Tout le monde n'a pas le droit à l'IVG, malheureusement. Mais ouais, ouais,
mais
c'est intéressant.
Du coup, ouais, c'est très intéressant justement l'exemple de la grossesse, parce que ça permet de montrer cette dimension de l'attente où en fait on va organiser et harmoniser notre, enfin, tout notre quotidien en vision de, ou en prévision plutôt de, d'un futur, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est plus déterminé comme chez Maldiné, le moi, l'identité du moi, et du coup toutes les actions qui en découlent ne sont plus déterminées dans une perspective de transformation, mais dans une perspective plus de préparation ou de projection, quoi.
Vous venez d'écouter Radio Pium, diffusé sur Radio Campus Paris 93.9 FM un dimanche sur 4. Au micro, c'était Marianne Varem, Emma Brunel-Casju et moi-même, Anna Le Gouar-Mezguez. Vous pouvez nous contacter par mail opium.radiopium@gmail.com ou nous envoyer un message sur Instagram opium-philosophie. Radio Pium est un podcast produit par Radio Campus Paris et Opium Philosophie. Merci de nous avoir écoutés et à l'année prochaine.
Attendre ou s'attendre ?
S'attendre.
S'attendre. S'attendre aussi.
Attendre une révélation divine ou attendre le grand amour ?
Moi, je l'ai déjà.
Ok, meuf.
Ça dépend ce que t'appelles révélation divine.
On n'a pas le temps, c'est les questions dogmatiques.
Okay,
attendre une révélation divine.
Ah ouais ?
Ouais.
Je crois attendre une révélation divine aussi.
Ok. Mais toi, je crois pas du tout en Dieu, donc...
Et moi, je crois pas du tout au grand amour.
Ok.
Et moi, je crois ni en l'un ni en l'autre, mais je suis à la fois spirituelle et un peu une loveuse. Mais rien d'absolu.
Bah, peut-être révélation divine dans le sens où je suis curieuse quand même.
Mm.
Projeter ses attentes sur quelqu'un ou devoir se conformer aux attentes de quelqu'un d'autre?
Projeter ses attentes sur quelqu'un, c'est horrible, mais dans les deux cas, c'est horrible en fait.
Ouais,
je pense. Il y a moins de souffrance, je pense.
Je répondrais la même chose.
Ouais.
Parce qu'il y a, ça te fait quand même un peu rêver.
Ouais.
Alors que sinon, t'es juste dans une conformisation, quoi.
Et tu te dissous au travers des attentes de l'autre.
Ouais.
Et toi, Anna ?
Bah, pareil.